Aujourd'hui dans l'affaire sensible, l'affaire Quentin Trintignant ou la tragédie de Vilnius. Ces images, nous les avons tous en tête. Le corps de Marie Trintignant plongé dans le coma, longé sous une civière et assailli par les journalistes. Le visage masqué par les mains de sa mère. Le chanteur, Bertrand Cantat, le regard vide, la tête enfouie sous les épaules, les mains menottées. Des images au goût amer, celles d'un geste fou, horrible, impensable, celles d'un mauvais rêve, d'un vieux souvenir qu'on aimerait avoir oublié pour toujours. Et pourtant, dans la nuit du 26 au 27 juillet 2003, à Vilnius, en Lituanie, Marie Trintignant est bien morte sous les coups de Bertrand Cantat. Parce qu'ils étaient célèbres, parce qu'ils avaient du talent, parce qu'ils incarnaient chacun à leur manière la vie d'artiste, parce qu'ils étaient beaux et qu'ils s'aimaient d'un amour fou, ce fait divers tragique s'est transformé en drame national. La peine, la compassion, la stupeur et la colère, autant de sentiments que tous les Français ont, à un moment ou un autre, ressenti au cœur de ce sombre été. À travers l'enchaînement dramatique des faits, l'enquête, ses révélations et ses zones d'ombre, le mobile, la jalousie, l'affrontement à couteau tiré entre les familles Cantat et Trintignant, les questions autour de la violence subie par les femmes et la médiatisation, cette histoire interroge tout un pan de notre conscience individuelle et collective. En seconde partie de l'émission, nous recevrons Stéphane Boucher, ancien reporter au Parisien. Il fut le premier journaliste français présent à Vilnius. Il est l'auteur de l'ouvrage intitulé « Bertrand Cantat, Marie Trintignant, l'amour à mort » aux éditions de l'Archipel. Bonjour Stéphane Boucher.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, à tout à l'heure. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Simon Maisonneuve avec l'appui des documentalistes de Radio France. Attaché de production Léa Dupouy-Henquin et Lucille Valéry, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui David Federman.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
On va faire le coup de la clope.
La scène 10, c'est fini, c'est bon.
Donc là, pour les autres comédiens, non, c'est bon, vous allez droit au café.
Ouais, surtout, on va mettre le chaussier au plus près.
Ça va clapper fort, les oreilles.
Samedi 26 juillet 2003, Vilnius, Lituanie. Dans la capitale de l'État balte se déroule le tournage d'un téléfilm français. Le nom du projet, Colette. Cette fiction sur la vie de la célèbre écrivaine est réalisée par Nadine Trintignant. Comme souvent, la réalisatrice tourne en famille. Dans le rôle principal, sa fille, l'actrice Marie Trintignant, qui a coécrit le scénario. Le fils aîné de Marie, Roman, y joue un rôle et son frère, Vincent, est assistant. Sur le plateau, Marie Trintignant est souvent accompagnée du chanteur Bertrand Cantat, son compagnon. Ils vivent depuis peu une histoire passionnelle. Rien ne laissait présager une telle idylle entre l'actrice et le chanteur. Marie Trintignant, 41 ans, est née sur les plateaux de cinéma. Fille du célèbre acteur Jean-Louis Trintignant, elle suit la voie de ses parents. Les Français ont appris à reconnaître son visage fin au large sourire, son regard noir profond et sa voix grave dès ses 16 ans dans le rôle de Mona aux côtés de Patrick Devers pour le film Série Noire. Bertrand Cantat, lui, a 39 ans. Il est issu de la classe moyenne et c'est à la force du poignet et de son talent qu'il a investi la scène rock de Bordeaux avant de conquérir la France du rock à la tête du groupe Noir Désir. Son écriture, sa voix, ses engagements politiques en ont rapidement fait le héros d'une génération. Voilà bientôt un an que les deux artistes se sont rencontrés. C'était au cours de l'été 2002, après un concert de Noir Désir. Le groupe est alors en pleine tournée de son album Des visages, des figures, son plus gros succès. Le coup de foudre opère avec le public et dans la vie privée, autrement dit, avec Marie. Elle et lui se retrouvent dans une même manière de vivre la vie et l'amour intense et romantique. À l'époque, ils sont tous les deux mariés. Marie avec Samuel Benchetrit, auteur et réalisateur, Bertrand avec Christina Radi, qui attend leur deuxième enfant. Ils annoncent leur rupture à leurs conjoints respectifs pour vivre librement leur passion. Un an après, ce 26 juillet 2003, à Vilnius, si d'apparence tout va bien, la situation entre les deux amants est en réalité compliquée. L'un et l'autre ont du mal à gérer cette période de transition familiale, notamment avec les enfants. Chacun semble être jaloux des rapports entretenus avec l'ancien conjoint. Heureusement, le tournage touche à sa fin. D'ailleurs, ce soir-là, on organise le pot de départ de l'acteur Lambert Wilson. Pendant la soirée, Bertrand et Marie sont distants, silencieux. On boit quelques verres, on fume quelques joints. Vers 22h30, l'équipe se sépare. Il est prévu de se retrouver un peu plus tard en boîte de nuit. Bertrand Cantat et Marie Trintignant déclinent l'invitation. En revanche, ils suivent Andrius Leliuga, un assistant lituanien, et vont boire un dernier verre chez lui. Entre les deux amoureux, la situation est particulièrement tendue. Bertrand Cantat presse Marie Trintignant de questions. Elle reste silencieuse, le regard vide, l'air épuisé. Face à cette tension, Andrius Leliuga propose de les accompagner à leur hôtel. Ils arrivent à 23h30 devant l'escalier du Domina Plaza. Bertrand Cantat et Marie Trintignant montent jusqu'au troisième étage, arrivent devant leur suite numéro 35. C'est là, derrière cette porte qui se referme, que dans la nuit du 26 au 27 juillet 2003, s'écrivent les premières lignes de la tragédie de Vilnius.
Bonjour. Marie Trintignant, entre la vie et la mort, l'actrice française est actuellement dans le coma. Elle tournait ces jours-ci un téléfilm en Lituanie. D'après la police locale, elle se serait cognée la tête ce week-end dans sa chambre d'hôtel lors d'une altercation avec le chanteur de Noir Désir. L'un de ses médecins lui donne 5 à 10% de chances de survie.
France Inter.
Lorsque l'information tombe, ce lundi 28 juillet 2003, la stupeur saisit le pays tout entier, plongé d'ailleurs depuis un mois en pleine crise de la canicule. D'emblée, le nom des personnalités citées marque les esprits. Il y a la distance aussi, ce pays, la Lituanie qu'on connaît mal, et le retard de 24 heures entre le moment des faits et la publication de l'information en France. Tout cela est très troublant. Alors, que s'est-il passé ? Ce qu'on sait d'abord, c'est que Marie Trintignant a été admise à l'hôpital universitaire de Vilnius aux alentours de 8h du matin, le dimanche 27 juillet. C'est son frère, Vincent Trintignant, qui a prévenu les secours quelques minutes plus tôt. Au cœur de la nuit, Bertrand Cantat l'avait appelé, paniqué. Lorsqu'il est entré dans la chambre, Vincent a découvert le visage tuméfié de sa sœur. Elle était allongée là, sur le lit, respirant mais semblant endormie. Confronté à cette vision, Vincent commence à hurler contre Bertrand Cantat. Les deux hommes sont encore alcoolisés de leur soirée de la veille. Ils finissent par se calmer. Bertrand Cantat explique à Vincent qu'ils se sont disputés, qu'il l'a frappée et qu'elle est tombée. La respiration de Marie Trintignant les rassure. Alors ils décident d'attendre qu'elle se réveille. Le temps passe et vers 7h du matin, Vincent Trintignant retourne dans la chambre pour voir sa sœur. Or elle saigne au niveau de la bouche. Il essaie de la réveiller. Pas de réponse. C'est là qu'il appelle les secours. L'un des médecins lituaniens témoigne au micro de France Inter.
Je ne sais pas précisément ce qui s'est passé. La patiente a été transportée de son hôtel à l'hôpital dans un état critique. Elle était dans le coma et les premiers examens ont confirmé qu'elle souffrait d'une grave blessure à la tête. Une demi-heure après son admission, nous avons décidé de l'opérer afin de retirer un hématome. J'ignore son état à l'heure où je vous parle, mais tard hier soir, elle se trouvait toujours dans un coma profond, sous respiration artificielle, sans aucune réaction cérébrale. Dans ce genre de cas, les chances de survie sont minimes.
Bertrand Cantat et Vincent Trintignant accompagnent Marie à l'hôpital. Le chanteur explique au médecin qu'il a giflé Marie, puis qu'il y a eu une bousculade, alors il pense qu'elle a dû tomber, se cogner la tête. De son côté, Vincent Trintignant prévient sa mère, Nadine, qui se précipite à l'hôpital. Le chanteur, lui, erre dans le hall de l'hôpital en pleurs, l'air perdu. Puis il sort, monte dans un taxi et retourne à l'hôtel, sur les lieux du drame. Arrivé sur place, il réunit tous les médicaments qu'il peut trouver, des antidépresseurs, des tranquillisants, et il les avale. Il téléphone à son ex-femme, Christina. Il lui explique la situation, lui dit adieu, et s'écroule. Pendant ce temps, à l'hôpital, la famille Trintignant prévient la police. Un avis de recherche est lancé. Rapidement, on apprend que Bertrand Cantat serait à l'hôtel. Une patrouille de police vérifie et découvre le corps inanimé du chanteur. Alors, c'est à son tour d'être emmené d'urgence à l'hôpital. Les deux amants d'hier se retrouvent donc inconscients à deux étages l'un de l'autre, séparés par la violence. Pendant ce temps, tout s'emballe. Christina et les trois membres du groupe Noir Désir rejoignent Vilnius en avion privé. Du côté de la famille Trintignant, Jean-Louis, lui aussi, s'envole pour la Lituanie. L'équipe du tournage est alertée, les proches se relaient au chevet de l'actrice. L'état de Marie Trintignant est critique. La famille décide de faire appel à un neurochirurgien français, Stéphane Delajoux. Arrivé sur place, le médecin procède à une nouvelle opération. Après l'intervention, il explique la situation aux journalistes.
Nous avons réopéré ce matin Marie Trintignant. Une intervention qu'on pourrait qualifier de la dernière chance, en accord avec la famille et en raison de son aggravation très importante ces dernières 24 heures.
Pour Bertrand Cantat, ce n'est que le mardi 29 juillet que la police lituanienne vient le récupérer pour le placer en garde à vue. En présence d'un avocat commis d'office et d'une traductrice, dans un état encore confus et fragile, il raconte la nuit dramatique. Il revient d'abord sur l'origine de la dispute. Depuis quelque temps, avec Marie, la relation est compliquée par leur situation familiale respective. Bertrand Cantat est jaloux des rapports entretenus par Marie avec Samuel Benchetrit, son ex-époux. Or, le 23 juillet 2003, l'actrice reçoit un texto de Samuel, qu'elle montre à Bertrand. Le message fait référence à la promotion du film « Janice et John » qu'ils viennent de réaliser ensemble et qui doit sortir à la rentrée. Bon, rien d'alarmant dans ce message. Alors que Marie s'absente, Bertrand se saisit de nouveau du portable et là, il relit le message. Il se termine par une expression que Bertrand n'a pas lue la première fois. « Ma petite Janice », une marque d'affection qui rend foudrage le chanteur. Au cours de la soirée, avec l'équipe, il ne décolère pas. Il va jusqu'à appeler Samuel Benchetrit, à qui il laisse un message. Après avoir quitté la soirée, Bertrand Cantat presse Marie Trintignant de lui répondre. D'abord chez Andreas, l'assistant lituanien chez lequel il passe, puis dans leur chambre d'hôtel. Jusque-là, mutique et effacée, Marie s'énerve. Et selon les dires de Bertrand, commence à crier. Après les mots, ce sont les gestes. Les deux amants s'agrippent et échangent des coups. Dans la bousculade, le chanteur chute. Et son dos se cogne contre une porte. Un choc douloureux puisqu'il souffre d'un lumbago depuis plusieurs semaines. Suite à cette douleur très vive, Cantat se relève, hors de lui, saisit Marie et lui donne une série de 4 gifles. Très fortes, souligne le chanteur. Les deux amants s'empoignent de nouveau, butent contre une petite table et Bertrand Cantat jette Marie Trintignant sur le sofa. Le chanteur sort de la pièce pour reprendre ses esprits. Lorsqu'il revient, l'actrice est tombée sur le sol, elle a perdu connaissance. Il la porte jusqu'au lit et lui appose une serviette humide sur le visage. Marie respire, alors il la pense endormie. Et il reste là, prostré, paniqué, un long moment. Il décide d'appeler Samuel Benchetrit. Le réalisateur répond. Bertrand Cantat lui raconte la dispute, les coups, il lui parle de sa jalousie, de sa douleur. Samuel s'inquiète de l'état de Marie. Bertrand dit que ça va, elle dort. Il raccroche et reste ensuite un long moment, seul. Il finit par appeler Vincent Trintignant, le frère de Marie, vers 4 heures du matin. Voilà le récit de cette terrible nuit par Bertrand Cantat lui-même. Le lendemain, mercredi 30 juillet 2003, les policiers le confrontent à Vincent Trintignant. Ils l'emmènent ensuite à l'hôtel pour une reconstitution. Bertrand Cantat confirme sa déposition sur les lieux mêmes du drame. La garde à vue arrive à son terme. Il le sait. La suite se jouera devant le tribunal qui doit statuer sur son inculpation. Elle a lieu le jeudi 31 juillet en présence de la famille Trintignant.
Il était là dans cette petite salle d'audience, dans le box, mais assis à un mètre, peut-être même moins, de Nadine, la mère, et Roman, le fils de Marie Trintignant, lui évitant par tous les moyens d'avoir à les regarder en face. Le fils de Marie Trintignant, en revanche, l'a fixé des yeux du début à la fin. Et puis il y a eu les accusations de Nadine Trintignant. Elle parle des coups portés d'une violence extrême. Tous les médecins me l'ont confirmé, dit-elle. Et lui n'a pas bougé. Si Marie avait été emmenée tout de suite à l'hôpital, elle serait probablement sauvée. Bertrand Cantat, manifestement fatigué, mal rasé, les yeux gonflés, la voix nouée, n'a pu que demander pardon à la famille, soulignant qu'il savait ses propos aujourd'hui dérisoires. « C'est un accident, dit-il pour sa défense, mais je suis prêt à payer tout ce que je peux payer. »
À l'issue de cette première confrontation, Bertrand Cantat est emprisonné jusqu'au 14 août. La famille Trintignant peut désormais s'occuper du rapatriement de Marie, toujours plongée dans le coma. Ses proches savent désormais qu'il n'y a plus rien à faire. Leur seule requête, qu'elle soit rapatriée en France pour y mourir. Dans l'après-midi du 31 juillet, un avion atterrit sur le tarmac de l'aéroport de Vilnius. Des centaines de journalistes agglutinés saisissent les images du visage de Marie Trintignant, sous assistance respiratoire, la tête bandée, couverte d'hématomes. Dans la cohue, Nadine Trintignant tente de protéger sa fille. Arrivée en France, la famille et quelques amis passent une dernière nuit à ses côtés. Et le lendemain, vendredi 1er août, Stéphane Delajoux se présente devant les journalistes pour annoncer l'inéluctable nouvelle.
Madame Marie Trintignant est décédée ce matin à 10h20 des suites d'un œdème cérébral, et ce malgré la réanimation poursuivie depuis son arrivée à la clinique Hartmann.
À l'annonce de la mort de Marie Trintignant, l'émotion est nationale. Par un communiqué, Jacques Chirac, le président français, lui rend hommage. Les obsèques sont organisées le 6 août 2003. Après une cérémonie intime dans un théâtre, Marie Trintignant est inhumée au cimetière du Père-Lachaise. La famille a accepté que le public assiste aux adieux. Les images de la cérémonie, les larmes de Jean-Louis Trintignant au moment d'adresser ses derniers mots à sa fille, accentuent le choc ressenti par les Français. À plusieurs milliers de kilomètres de là, Bertrand Cantat est toujours dans sa cellule. Il apprendra la mort de Marie Trintignant la veille de son enterrement. Son avocat et les médecins l'estimaient trop fragile pour lui annoncer avant. Le chanteur comprend qu'il a tué de ses mains la femme qu'il aimait, Noir Désir. Après le décès de Marie, son statut change. Il est désormais accusé dans une affaire criminelle. Ce 26 juillet 2003, deux destins autrefois passionnément liés se sont brisés sous les coups de folie de Bertrand Cantat. Dans la nuit de Vilnius, un homme a détruit sa vie, une femme a perdu la sienne. Au cœur de l'été 2003, l'affaire Cantat-Trintignant a tout du dossier hors norme, ce qu'on dit en principe quand on ne sait pas quoi dire. Mais là, c'est vrai. D'abord le nom des protagonistes, les circonstances aussi, violence mortelle d'un homme sur sa femme. Les associations féministes et une grande partie de la société civile ne tardent pas à en faire l'exemple éclatant d'une réalité trop souvent passée sous silence. Sur le plan judiciaire, la première question à régler est celle du lieu du procès. La Lituanie insiste pour qu'il se tienne sur son sol, il en va de sa souveraineté. Malgré tout, deux informations judiciaires sont en cours. La première a été déposée au tribunal de Vilnius, la seconde à Paris. C'est la jeune juge d'instruction Nathalie Turc qui est chargée du dossier. Côté français, c'est donc elle qui entend à Paris les différents témoins, notamment Samuel Benchetrit, l'ex-mari de Marie Trintignant, qui a eu Bertrand Cantat plusieurs fois au téléphone le jour du drame. Nathalie Turc fait procéder à une autopsie du corps. élément essentiel, puisque seul cet examen peut confirmer ou infirmer les propos de Bertrand Cantat, unique témoin et principal accusé dans cette affaire.
C'est un document d'une dizaine de pages et il ne laisse guère de doute. Le rapport d'autopsie vient d'être versé au dossier Marie Trintignant. La comédienne a bien été victime de coups violents et multiples au visage. En tout cas, Étienne Menin, le document rend très improbable la thèse d'une chute accidentelle défendue par Bertrand Cantat.
Oui, le rapport est sévère. On a de plus en plus de mal à croire à une simple gifle qui provoque une chute. Marie Trintignant semble avoir succombé suite à une succession de coups dont les traces témoignent de la violence. Très prudent sur leur conclusion. Les légistes font tout de même le lien entre la répétition des traumatismes et les lésions au cerveau, assimilable au syndrome du bébé secoué, explique un enquêteur qui ne croit pas aux conséquences de la chute. Les coups avant tout ont été portés au visage.
L'autopsie confirme en partie la version racontée par Bertrand Cantat. Sur les quatre gifles, très violentes, qu'il explique avoir portées, les médecins estiment que cela se vérifie pour trois blessures. En revanche, pour la quatrième, au nez, il penche plus pour un coup de poing ou un coup de tête, sans le certifier. Dès lors, l'interprétation et les doutes laissés par l'autopsie deviennent, dans un camp comme dans l'autre, une pièce essentielle du dossier. Car Bertrand Cantat s'est toujours défendu d'avoir voulu tuer sa compagne. Et là, la différence entre un coup de poing et une gifle devient primordiale, dans l'intention. Le juge d'instruction demande à rencontrer Bertrand Cantat à Vilnius. C'est au cours de cette entrevue que la bataille judiciaire est véritablement lancée entre les deux camps. D'un côté, la famille de Marie Trintignant est représentée par le célèbre avocat et ancien ministre de la Justice, Georges Kiesman. Bertrand Cantat, lui, a choisi Olivier Metzner, connu notamment pour avoir défendu de grands patrons comme Loïc Le Floch-Prigent ou Jean-Marie Messier. À la mi-août, Nathalie Turquet se rend en Lituanie. Elle peut rencontrer et interroger les témoins essentiels de la nuit du drame. D'abord, Gary Tuck, un Britannique, qui logeait dans la chambre voisine. Il confirme avoir entendu des cris, mais ne parlant pas français, il n'a pas pu comprendre ce qui se disait. La juge d'instruction interroge ensuite Andrius Leliuga, le jeune assistant lituanien. Lui raconte que les deux amants sont passés boire un verre chez lui. Bertrand Cantat était très agité. À un moment, il a même sauté du balcon de l'appartement vers celui des voisins. Il a cassé un verre en le jetant contre un mur. Et puis il a bousculé Marie Trintignant. C'est pour cette raison qu'il les a raccompagnés à leur hôtel. Enfin, le jeudi 21 août 2003, à 9h du matin, Nathalie Turquet rencontre Bertrand Cantat en présence de son avocat Olivier Metzner. Après plusieurs heures d'entretien, ce dernier s'avance devant les journalistes.
Marie lui est apparu comme jamais. Il ne l'avait vu. En furie, hystérique, mais il ne pensait pas qu'elle puisse être comme ça. Elle a malheureusement frappé un premier coup. Elle a grippé, il est tombé. Et après cela, elle était déjà sortie de ses gonds, lui est sortie aussi de ses gonds après.
Il reconnaît l'avoir frappé.
Après une douleur dans le dos, et il reconnaît l'avoir frappé.
Plusieurs fois.
Plusieurs fois. Et il reconnaît, il a dit dès le départ, je suis responsable de la mort de Marie. Il ne fuit aucunement ses responsabilités.
Après avoir été tout en retenue lors de ses interventions précédentes, l'avocat de Bertrand Cantat décide cette fois de lancer l'offensive. Sa stratégie est claire. Son client a toujours reconnu avoir frappé Marie Trintignant sans jamais avoir voulu la tuer. Il ne s'est pas rendu compte de la gravité de son état. Enfin, c'est l'hystérie de l'actrice qui aurait provoqué l'enchaînement de violences. Lorsque la famille Trintignant entend la déclaration d'Olivier Metzner, le choc est violent. Faire de leur fille hystérique, c'est salir sa mémoire et minimiser le rôle de Cantat dans sa disparition. Dès le lendemain, à Paris, Georges Kiesman, leur avocat, organise une conférence de presse pour répliquer.
Il est parfaitement invraisemblable de penser que cette frêle jeune femme, d'1m65, moins de 60 kilos, ait pu bousculer, renverser à terre un gaillard qui est un véritable athlète d'1m90, 85 kilos, et entraîné à plusieurs disciplines sportives. Je ne m'étendrai pas sur l'hystérie prétendue de Marie. C'est l'excuse classique des hommes qui frappent.
Dans l'attente du procès s'ouvre alors une période d'affrontement entre les deux clans, Cantat d'un côté, Trintignant de l'autre. On essaie d'adoucir l'image du chanteur côté Cantat et de rétablir certaines vérités. Jusque-là silencieuse, Christina, son ex-femme, et les membres du groupe Noir Désir organisent une conférence de presse où ils exposent leur incompréhension face aux gestes de Bertrand, mais ils réfutent, notamment Christina, des antécédents violents du chanteur. Chez les Trintignants, on contre-attaque. On s'appuie notamment sur une discussion que la même Christina a eue avec des proches de Marie Trintignant le soir où elle est arrivée à Vilnius. Elle leur a dit que le chanteur avait déjà été violent avec elle. Alors, Georges Kegeman enquête dans le passé du chanteur pour trouver des précédents. Plusieurs événements émaillent cette période. D'abord, une soirée de soutien organisée par les parents et la sœur de Bertrand Cantat à Vilnius. Une initiative largement critiquée par les proches de Marie Trintignant qui parle d'indécence, d'atteinte à la mémoire. Le 11 septembre 2003, la maison landaise de Bertrand Cantat est incendiée. Quelques semaines plus tard, Nadine Trintignant publie un livre intitulé « Marie ma fille » dans lequel le nom de Bertrand Cantat n'est jamais mentionné, mais remplacé par les expressions « ton meurtrier » ou « ton assassin ». Olivier Metzner, l'avocat de Bertrand Cantat, dénonce une atteinte à la présomption d'innocence et cherche à faire retirer le livre. L'affaire sera finalement réglée devant un tribunal où, pour la première fois, les deux avocats et les deux camps se retrouvent. Une sorte de répétition du véritable procès, celui qui s'ouvre à Vilnius le mardi 16 mars 2004.
Madame, monsieur, bonjour. 8 mois après la mort de la comédienne Marie Trintignant dans une chambre d'hôtel de Vilnius, son compagnon, le chanteur Bertrand Cantat, est depuis ce matin devant ses juges. Ses avocats vont tenter de plaider le crime passionnel. La partie civile défendra la thèse des violences ayant entraîné la mort. Ce matin, la première audience a eu lieu en public. Le huis clos, censé protéger la vie privée des deux protagonistes, n'a pas été retenu par les juges.
Bertrand Cantat entre dans la salle, les mains menottées, la tête basse. Il paraît très amaigri, le visage pâle. Le premier jour du procès est consacré à son témoignage, justement. D'une voix à peine audible, fragile, il raconte, une fois encore, le déroulé des événements. Méthodiquement, il reprend les différentes étapes qui ont conduit à la tragédie. Au cours de son récit, il ajoute aussi ce qui constitue son deuxième axe de défense, l'état mental de Marie. Il décrit une femme extrême, absolue, qui prenait des médicaments et fumait souvent des joints. Il termine en s'adressant directement à Nadine Trintignant et exprime tout son désespoir, sa souffrance, ses regrets. Puis c'est au tour de Nadine et Vincent Trintignant d'intervenir. Eux insistent sur la personnalité de Marie, tout le contraire d'une hystérique. Ils dénoncent les mensonges de Bertrand Cantat et surtout, ils insistent sur la violence des coups portés, sa passivité pendant les heures qui ont suivi son acte. À la sortie de cette première séance, certains proches de Marie Trintignant, comme Samuel Benchetrit, ne cachent pas leur colère face à la version du chanteur.
Moi qui fasse 6 ans, 7 ans, 8 ans de prison, j'en ai rien à foutre. Ça m'intéresse pas. Je suis pas venu pour ça. Je suis juste venu pour la famille de Marie que j'aime et pour dire non, la mère de mon fils, c'est pas une hystérique, c'est pas vrai. Parce que moi, j'ai vécu avec cette femme-là, elle n'était pas comme ça. Marie, c'était une vraie femme qui vous épanouissait, qui faisait progresser. Je pense aux enfants. On pense à nos petits. Et on n'a juste pas envie qu'ils grandissent avec ces trucs faux. Moi, je suis en colère. Hein. Je pensais pas que c'était à ce point-là. Je pensais qu'il y aurait un truc d'humanité, quoi. J'en veux beaucoup plus pour ce qui s'est dit après. Là, c'est plus un meurtre d'amour du tout, quoi. On parle pas de comme ça de quelqu'un qu'on aime. On se défend pas de quelqu'un qu'on aime. Quelqu'un qu'on aime, on l'aime jusqu'au bout. Et on ne l'accable pas. Et on convainc sa famille de dire « Foutez-moi la paix, je veux pas me défendre. Moi, je veux respecter la mémoire de Marie, de ses enfants, des gens qui l'aiment, de sa famille. »
C'est d'ailleurs Samuel Benchetrit lui-même qui est appelé à témoigner le lendemain. Il revient sur les différents coups de téléphone avec le chanteur, le jour et la nuit du drame. Il révèle aussi une discussion qu'il a eue avec Christina, l'ex-femme de Cantat. Elle lui aurait dit que Bertrand Cantat l'avait déjà menacé avec un couteau. Or, c'est elle qui justement succède à Samuel Benchetrit à la barre. D'origine hongroise, cette femme parle russe et un peu lituanien. Un avantage dans ce procès où tout est traduit, ce qui ralentit les échanges. Christina nie toute violence physique qu'aurait pu avoir Cantat pendant les 11 années qu'ils ont passées ensemble. Jusqu'au bout, elle défend son ex-mari et le père de ses enfants. À l'issue de cette journée, le procureur demande que Bertrand Cantat soit condamné pour homicide volontaire. Mais dans une formule, il dit toute la complexité du dossier. Il ne voulait pas donner la mort, mais l'a déclenché et n'a rien fait pour l'empêcher. Bertrand Cantat peut être condamné à 15 ans de prison, mais le procureur n'en réclame que 9. À la sortie du tribunal, Georges Kegeman réagit.
Je ne me prononce jamais de manière arithmétique sur la peine qui est demandée contre un accusé.
C'est en tout cas une peine assez forte, puisqu'elle est supérieure à la moyenne possible entre le minimum et le maximum. Quand on est dans la douleur, on pense qu'aucune peine ne vous rendra l'être qu'on a perdu. Vous avez entendu Nadine, vous avez vu que pour elle, ce qu'elle souhaite, c'est une peine très sévère. Et effectivement, même cette peine très sévère ne rendra pas aux enfants Marie, leur mère. Seulement, on peut se dire qu'à ce moment-là, le prix de la vie aura été correctement évalué par des juges. Bon, la procédure devant le tribunal criminel de Vilnius a pu paraître très différente de la procédure française devant la cour d'assises, mais finalement, c'est toujours les mêmes valeurs que l'on défend, le respect de l'être humain et d'abord le respect de sa vie.
Finalement, le 29 mars 2004, Bertrand Cantat est condamné à 8 ans de prison ferme. Le 28 septembre, il quitte la Lituanie pour purger sa peine en France. Après 4 ans de détention, il est placé en liberté conditionnelle. Il lui est interdit d'évoquer publiquement l'affaire. Le groupe Noir Désir se reforme un temps avant de se séparer. L'ombre du drame de Vilnius laissera des traces indélébiles et probablement éternelles. Alors, pour lutter contre le poids de sa culpabilité, pour essayer d'avancer sans oublier, Quentin n'avait sans doute d'autre choix que de reprendre la chanson et la scène. De leur côté, les Trintignants se sont exprimés à plusieurs reprises sur ce drame. Nadine a notamment adressé une lettre au juge pour lui demander de refuser la libération conditionnelle de Bertrand Cantat. On ose imaginer la peine de ses parents qui par 2 fois ont connu la perte d'un enfant. Jean-Louis Trintignant avait noué avec sa fille Marie une relation fusionnelle, à la fois dans la vie privée mais aussi sur scène, puisqu'ils ont joué à plusieurs reprises ensemble. Comme pour ce spectacle sur les poèmes à Lou d'Apollinaire, monté quelques années avant le décès de Marie et dont les résonances sont depuis cette nuit de Vilnius particulièrement saisissantes.
Je voudrais que tu sois mon cœur pour te sentir toujours en moi.
Je voudrais que tu sois le paradis ou l'enfer selon le lieu où j'aille.
Je voudrais que tu sois un petit garçon pour être ton précepteur.
Je voudrais que tu sois la nuit pour nous aimer dans les ténèbres.
Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, l'affaire Cantat Trintignant avec notre invité Stéphane Boucher. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, ancien reporter au Parisien. Vous êtes auteur de l'ouvrage intitulé Bertrand Cantat, Marie Trintignant, L'amour à mort. C'est aux éditions de l'Archipel. Qu'est-ce qui vous a mis sur cette affaire et dans quelles circonstances, à un moment où, je le rappelle, la France vivait une drôle de période. Hein, c'était août 2003. Elle était sous l'effet d'une canicule terrible.
C'était le début de la grande canicule de l'été 2003 qui a fait tant de victimes en France. En fait, c'est une atmosphère assez pesante. Et je me souviens, c'était un dimanche. J'étais au journal, au Parisien. On faisait des permanences du week-end, en fait. Et tombe dans le courant de la journée une dépêche de l'AFP, de l'agence France Presse, indiquant que l'actrice Marie Trintignant était hospitalisée à Vilnius après une sorte de dispute avec son compagnon. En fait, c'était assez laconique comme énoncé dans la dépêche. Sur ce jour-là, c'était un dimanche, pas grand monde y a prêté attention. Enfin, on était en pleine trêve des confiseurs, entre chassés-croisés des juilletistes et des aoussiens. Et cette dépêche, je suis tombé dessus, en fait, et je savais, en fait, depuis quelques semaines, par des contacts dans le milieu des paparazzi, que Marie Trintignant vivait une histoire d'amour assez passionnelle avec Bertrand Cantat. Donc très peu de gens à l'époque étaient au courant de cette liaison.
D'ailleurs, pardon de vous couper, mais on a découvert finalement, les Français, hein, le grand public, ont découvert que Marie Trintignant et Bertrand Cantat étaient un couple à cette occasion-là. C'est quand même très triste. Hein.
Voilà, disons que certaines personnes aussi à Paris étaient au courant de cette, par certaines indiscrétions de cette idylle. Et je savais qu'il y avait des photographes qui essayaient de les pister. Donc, ce couple un peu glamour, lui, chanteur de rock, elle, actrice reconnue, aurait pu faire les choux gras de la presse people pendant cet été 2003 si particulier. Et finalement, ça a été une des affaires les plus marquantes de son époque, en fait. Voilà. Donc, moi, je suis parti de quelques informations assez parcellaires, en fait. Et ce dimanche-là, je savais que le compagnon qui était évoqué dans la dépêche était Bertrand Cantat, chanteur de Noir Désir. Donc je me suis retrouvé le soir même à Vilnius, donc seul journaliste français présent.
Le premier.
Présent
sur place.
Voilà, le premier, parce qu'en fait, il y a eu une sorte de confusion pendant quasiment 48 heures. Il y a eu une sorte de flottement. On était en plein été. Les rédactions étaient un peu dépouillées à ce moment-là. Est-ce que ça relevait du service international, du service des affaires judiciaires, du service spectacle des journaux? Donc tout ça est tombé dans une confusion un peu particulière. Je me suis retrouvé pendant quasiment deux jours seul journaliste français sur place.
Alors, comment était l'atmosphère à Vilnius, quand vous arrivez, parce que rapidement on apprend là-bas le nom des protagonistes, hein, ce qui donne évidemment une toute autre ampleur à l'affaire. Le fait divers devient un drame national en France, mais il se passe en Lituanie. Hein.
Voilà, donc bon, c'était très particulier, parce qu'en fait les journalistes lituaniens qui savaient qu'il se passait quelque chose étaient évidemment sur le coup. Prenez en photo des gens comme Jean-Louis Trintignant qui venait d'arriver, comme Dominique Besnéard qui était l'agent de Marie Trintignant, qui est quelqu'un d'assez connu en France, mais il ne savait pas qui étaient ces personnalités. Donc enfin, c'était une atmosphère assez surréaliste où les journalistes du CRU là-bas pensaient qu'il y avait quelque chose qui se passait mais n'avaient pas toutes les clés de l'affaire. Et le dimanche soir, je me souviens très bien, arrivant à Vilnius par une chaleur un peu étouffante, j'ai compris très très vite que cette affaire allait prendre des dimensions qui étaient insoupçonnées, et même que ça allait devenir une affaire qui aura un impact assez hallucinant sur l'opinion publique. En fait.
Alors là, vous allez à l'hôpital, qu'est-ce que vous faites ?
Ben, j'essaie de me renseigner dans un premier temps sur autour de l'équipe de tournage, parce que bon, il y avait quand même une équipe conséquente. Et la veille, c'était le pot de départ de Lambert Wilson. Donc évidemment, je suis pas accueilli à bras ouverts. Donc je me renseigne, je prends contact avec quelques journalistes lituaniens sur place. Enfin, y a très peu d'informations. Mais à l'époque, j'étais chargé pendant plusieurs années du suivi de la police judiciaire parisienne. Et dès le lendemain, Maître Kiechmann, qui était l'avocat de la famille Trintignant, a déposé une plainte à Paris. Et dans le courant de la journée, la brigade criminelle, dans un premier temps, a été saisie de l'enquête à 2000 km de là. Et c'est par la suite que la juge Nathalie Turquet, dont vous avez parlé, a coordonné les investigations.
Et en fait, elle le voit, la première fois qu'elle le voit, en réalité, hein, c'est à Vilnius, hein, c'est pas à Paris. C'est à Vilnius, c'est
elle le voit la première fois, oui, lorsqu'elle se déplace avec deux policiers de la brigade criminelle à Vilnius pour l'entendre, en fait. Et c'est vrai que moi, j'avais quelques contacts dans les milieux judiciaires et dans les milieux policiers à Paris. Et c'est vrai que je suivais l'affaire sur place, mais je passais beaucoup de coups de fil à Paris parce que, en fait, le début de l'enquête judiciaire a commencé à Paris à ce moment-là, dès le lundi. Et donc, j'avais quand même des contacts à la fois sur place et à la fois dans les sources proches de l'enquête, comme on dit, ici en France.
Alors, on va revenir sur un point de l'enquête. Peut-être d'autres, on va commencer par celui-là. Il me paraît essentiel, c'est le passage chez l'assistant lituanien, hein, le soir du drame et avant le drame. Dans un premier temps, on ne comprend pas très très bien pourquoi le couple passe chez lui, enfin pourquoi pas. Ensuite, il aurait confié à l'acteur Lambert Wilson le lendemain que la seule chose qu'il retenait de ce drame, eh bien, c'est que les drogues chimiques sont très dangereuses. Bon, alors c'est Lambert Wilson qui a raconté ça lors de son témoignage. Il se trouve que l'assistant a toujours nié avoir dit ça, mais enfin, il y a quand même l'ombre de la drogue dans cette affaire. Est-ce qu'elle tient un vrai rôle ?
Bah, disons que c'est un point qui n'a jamais véritablement été tiré au clair parce que, effectivement, Andreas Leliuga était, d'après certains témoignages, réputé fournir certains produits à l'équipe de tournage. Enfin, voilà. On a appris par la suite aussi que cet assistant était le fils de quelqu'un d'assez haut placé en Lituanie, qui était visiblement magistrat ou qui avait un poste important. Donc tout ça n'a pas vraiment été tiré au clair. Évidemment qu'Andreas Leliuga a été entendu et par la police lituanienne et par la brigade criminelle quand elle s'est rendue sur place. Disons qu'il a botté en touche. Donc il faut dire qu'on était à l'époque, la petite Lituanie était candidate à l'entrée dans l'Union européenne. On n'était pas très loin de l'époque communiste. Je pense qu'il y avait encore la statue de Lénine sur la place centrale. Disons que la situation était un peu particulière. Et donc, ce témoin de clé, Andreas Leliuga, je pense, n'a pas donné tout ce qu'il avait à dire devant les enquêteurs.
Il y a encore des restes de culture du secret. Quoi.
Voilà. Apparemment aussi, il y a eu des prélèvements sanguins qui ont été faits lors du séjour à l'hôpital de la victime et de l'auteur présumé. Et ces prélèvements n'ont donné lieu à aucune expertise, ce qui aurait été le cas en France. Donc voilà, il y a toujours une zone d'ombre autour de ce point-là.
Bien sûr, la question de l'autopsie, notamment, est essentielle. D'ailleurs, la famille Trintignant en a demandé une seconde. On s'est appuyé également sur le rapport des médecins lituaniens. L'incertitude laissée par les médecins ne permet pas, si j'ai bien compris, d'affirmer l'une ou l'autre des versions données, à savoir les gifles ou un autre acte de violence. Les médecins avaient dit oui. Effectivement, 4 gifles, 3, mais il y a une blessure au nez. On était où à ce moment-là ?
En fait, on a mis les moyens pour aller au bout de cette affaire, parce que c'est le professeur Lecomte qui est réputé comme médecin légiste, qui est patronne de l'Institut médico-légal de Paris, qui a procédé elle-même à l'autopsie, ce qu'elle fait dans les cas les plus sensibles. Et elle-même n'a pas pu déterminer précisément quelles étaient les causes des lésions et donc les causes du décès. Voilà. Mais c'est vrai que cette affaire a pris une grande dimension. On sait aussi que c'est le président Chirac qui a envoyé un avion du GLAM à l'époque pour rapatrier Marie Trintignant, donc tout ça avait quand même été, par les autorités, était pris très très au sérieux. C'était l'affaire de l'année, quoi.
Alors, concernant les témoignages des ex, à la fois du côté de Bertrand Cantat, avec Christina, et du côté de Marie Trintignant, avec Samuel Benchetrit, ils sont importants, ces témoignages-là. Ils ont pesé dans la balance ou pas ?
Disons qu'il y a eu deux enquêtes. Il y a eu une enquête lituanienne qui a été menée comme une banale histoire de violence conjugale. D'ailleurs, oui. Apparemment, c'était très monnaie courante là-bas, donc sans prendre en compte un peu tout le background et l'histoire des protagonistes. Mais par contre, l'enquête menée très rapidement par la brigade criminelle à Paris, qui est quand même un des meilleurs services de police, qui est des orfèvres, très connus, a permis de retrouver certains témoins, des ex-compagnons de l'un et de l'autre. Et donc, il y a eu des interrogatoires très très serrés, notamment à Bordeaux, qui ont été menés. Et on a essayé, enfin la police, suite à certains témoignages qui avaient été donnés par des gens qui étaient sur le tournage, a essayé de voir s'il n'y avait pas des antécédents de violence conjugale chez Cantat, et notamment à Bordeaux, où il a vécu la majeure partie de sa vie.
Et on rappelle que Noir Désir était un groupe bordelais.
Éminent groupe
absolument,
de la scène bordelaise.
Absolument, commencé à Bordeaux.
Quoi. Donc le cœur de l'enquête française s'est concentré très vite sur Bordeaux pour voir si oui ou non, comme l'affirmait Nadine Trintignant, comme le disaient certains témoins, Bertrand Cantat avait des antécédents de violence conjugale envers ses précédente compagne.
Cela dit, Christina l'a soutenue.
Donc très vite dans cette affaire, le personnage central qui a un peu irradié tout le monde, c'était Christina Radi, qui était la femme, enfin l'ex-compagne à ce moment-là de Bertrand Cantat, et qui s'est vouée un peu corps et âme à ce combat pour sauver un peu l'image du père de ses enfants.
Alors justement, elle a témoigné, on l'a dit, en faveur de son ex-mari, et 6 ans plus tard, le 11 janvier 2011, on apprenait cette terrible nouvelle.
On l'a appris tôt ce matin, l'ex-femme de Bertrand Cantat se serait suicidée. Christina Radi avait 41 ans, elle se serait donné la mort chez elle. Alors que le chanteur de Noir Désir s'y trouvait avec leurs 2 enfants, elle a laissé une lettre d'adieu. Bertrand Cantat était auditionné dès hier soir par la police judiciaire à Bordeaux. Une autopsie est en cours.
Stéphane Boucher, vous avez des précisions sur ce geste désespéré, ce suicide, la lettre ?
Qu'est-ce que vous savez ? Disons que c'était un peu atterré comme toute l'opinion publique par cette annonce qui est intervenue 6 ans après l'affaire, donc alors que finalement les cicatrices de toute cette histoire n'étaient pas totalement refermées. C'est vrai que ça a été un deuxième choc, une espèce de réplique de la première affaire. Donc tout le monde a appris ce suicide. Enfin, au tout début, il y a eu très très peu d'informations qui ont filtré parce que le commissariat local a suivi ça sous la houlette du parquet, sans vraiment donner d'informations. Donc tout le monde s'est posé des questions sur les raisons du suicide de Christine Arradi. Mais ce n'est que plusieurs mois plus tard que des éléments sont apparus à la faveur de fuites diverses concernant les raisons probables de ce suicide.
Parce que quelles étaient-elles?
Disons que d'après ce qu'elle a dit dans un message téléphonique laissé à ses parents qui étaient en Hongrie, en fait un long message téléphonique qui a été redécouvert bien plus tard et rendu public par les parents de leur côté, par divers biais, ce message qui est assez long, où en fait c'est un long monologue à ses parents, elle dit dans sa langue natale, en hongrois, qu'elle aurait été victime de violences conjugales, qu'elle ne peut plus supporter le comportement de Bertrand Cantat. Donc voilà, ça a été un deuxième acte dans cette tragédie qui a un peu estomaqué tout le monde en fait. Et c'est vrai que les informations sur cette deuxième partie de l'affaire ont mis un peu de temps à sortir et à sortir sur la place publique.
Elle a des problèmes financiers également, dit-on.
Entre autres, enfin, disons que ses propos sont un peu décousus dans ce message, mais enfin, on sent à son ton, à sa voix, c'est quand même quelque chose d'assez déchirant et d'assez glaçant, et qui a marqué l'opinion publique à nouveau 6 ans plus tard.
Stéphane Boucher, merci, on va se retrouver dans 3 ou 4 minutes, après avoir écouté John Lennon, qui en 71 chantait « Je suis un type jaloux, jealous guy ». Stéphane Boucher, ce qui avait créé un profond malaise également, c'est le fait que Bertrand Cantat, chanteur de gauche, une icône pour une génération, une demi-génération, mais enfin pour beaucoup de monde, on le retrouve dans cette position-là d'un homme qui bat sa femme et qui va jusqu'à la tuer. Ça a créé un vrai malaise et quelques dérapages dans la presse d'ailleurs, hein.
Oui, à l'époque, Cantat, c'est une icône. C'est pas quelqu'un qui va chez Drucker tous les dimanches, mais enfin, on le connaît, on connaît ses prises de position, on se souvient de son coup de gueule contre Jean-Marie Messier aux Victoires de la musique.
Donc, il a tout. Il a un physique, il est un chanteur, il parle.
C'est pas le Jim Morrison français, mais on n'est pas loin de cette figure. En plus, il a cet engagement politique chevillé au corps, en fait. Et c'est vrai que quand ces nouvelles effroyables arrivent de Lituanie en France, par cet été caniculaire de 2003, c'est vrai que personne n'y croit. Comment quelqu'un d'aussi engagé pour la veuve et l'orphelin pourrait avoir commis de tels actes de violence, et surtout son comportement après pendant la nuit. Donc tout ça, ça a été une douche froide, terrible quand même pour toute une génération, pour qui Kanta était une icône absolue quand même. Et c'est ça qui a donné très très vite en fait cette saveur à cette histoire, parce que certains médias ont voulu défendre l'indéfendable, ont fait marche arrière ensuite, donc ça a été un examen de conscience un peu pour tout le monde cette histoire, parce que ça touche potentiellement tout le monde, ça a parlé au cœur de tout le monde cette affaire.
Il est clair que quand Bertrand Cantat est revenu sur scène, on a probablement plus vu Bertrand Cantat de cette affaire judiciaire plutôt que le chanteur. Qu'est-ce qui s'est passé après d'ailleurs? Effectivement, donc, il fait 4 ans de prison, hein, c'est ça? Il
est 4 ans sur les 8 prononcés.
Sur les 8 prononcés, il est mis en liberté conditionnelle. Qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là et jusqu'à aujourd'hui là? Aujourd'hui.
Bon, c'est évidemment quand il sort de prison, c'est un peu la bête de foire. Il est traqué de partout. Il n'a pas le droit de s'exprimer sur l'affaire. Il est astreint à un contrôle judiciaire assez strict. Mais finalement, notamment par le biais d'une interview qu'il avait donnée aux Un Rock, il a plus ou moins préparé son retour parce que quoi qu'on puisse dire, Kanta, son seul métier, c'est de chanter sur scène. Donc il a jamais fait autre chose. Et donc tout naturellement, la réinsertion après une peine de prison, c'est de reprendre son métier, de reprendre son activité. Or, chez Kanta, c'est quand même la scène. Donc, très logiquement, il est revenu à ce qu'il savait faire, c'est-à-dire chanter. Dans un premier temps, avec Noir Désir, il y a eu des tentatives de reformation, quelques concerts, quelques chansons qui ont été enregistrées. Et puis, à un moment, très brutalement, le reste du groupe s'est désolidarisé de Bertrand Kanta, invoquant dans un communiqué un peu assassin, si je puis m'exprimer ainsi, son indécence et son comportement depuis l'affaire. Donc, comme le clan Trintignant, la famille Kanta et Noir Désir ont explosé en vol à partir de cette histoire.
Ça n'a pas survécu à cette histoire. Et aujourd'hui, que fait-il?
Aujourd'hui, il se produit toujours sur scène avec le groupe des Trois. Donc mais c'est vrai qu'il continue de faire son métier, mais c'est vrai que son image restera un petit peu à jamais attachée à tout ça, même s'il a quelque part un peu réussi sa reconversion après ces événements tragiques.
Toute dernière chose, Stéphane Boucher, les résonances des affaires, même de vieilles affaires, sont souvent fortes, et on le sait plus que personne ici dans l'affaire sensible, parce que c'est notre ligne éditoriale, mais celle-là a une vraie résonance. C'est comme si c'était pas réglé, quoi.
Moi, j'ai suivi des affaires beaucoup plus graves en termes judiciaires, des affaires de tueurs en série et ce genre de choses, des choses vraiment très très graves. Et c'est vrai que celle-là, à la base, c'est qu'une histoire assez banale de violence conjugale qui ferait même pas 3 lignes dans les journaux. Mais c'est vrai que ça a suscité une telle littérature, tellement d'articles de journaux, tellement de commentaires depuis, ça fait plus de 13 ans. Et c'est vrai qu'une affaire judiciaire, même la plus importante, c'est quand même rarissime, ou c'est un cas unique qu'on en parle encore aujourd'hui avec tant de passion, parce que ça arrive quand même que des repas se finissent en parlant de cette histoire, où chacun a son avis très Absolument. Tranché sur la question.
Absolument. Merci infiniment, Stéphane Boucher.
Je vous en prie.
Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire Kanta Trintignant, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles.